dernier volet d'une nouvelle série signée Christine Goémé et intitulée Mères et filles. Aujourd'hui, les rapports mère-fille revisités par la psychanalyse avec Marie-Madeleine Lessana et Martine Lerude.
Béatrix Bette, 1999.
Et aussi une chose que j'ai comprise il n'y a pas très longtemps, je chantonnais ma fille quand elle était au berceau. La fée folle caracole sur son poulain vert qui trotte à l'envers. La fée folle s'envole sur son poulain vert qui trotte à l'envers. Je croyais que ça ne voulait rien dire, juste des vers de Mirliton, mais tout a un sens, il s'agissait de ma mère. C'est tout à fait la fée folle. Une fois, ça avait été très agréable. À Saint-Germain-en-Laye, on avait entendu les petits chanteurs à la croix de bois et c'était le mois de mai. À la maison, et tout d'un coup, elle sort de je ne sais où, une énorme écharpe en laine, écharpe de chair, son nom. Elle m'a dit, mais ça, j'ai dit, mais non, maman, écoute. Et, mais ça, je me roule par terre en hurlant, dit-elle. Alors je mets ça, les larmes aux yeux, en souhaitant de rencontrer personne. Le lendemain, j'avais une grande amie au lycée, ça m'a aidé beaucoup. Je lui ai raconté, et elle me dit, mais tu aurais dû dire, et que, quand elle a menacé de se rouler par terre en hurlant, eh bien, mais parce qu'elle était sûre que, ne connaissant pas vraiment ma mère, qu'elle ne l'aurait pas fait, mais moi je savais qu'elle l'aurait peut-être fait, elle aurait eu un attroupement, elle aurait été internée. On avait honte l'une de l'autre, en somme, oui. Elle avait un côté un peu garce, n'est-ce pas, vis-à-vis de moi. Et en même temps, elle avait un côté un peu, quoique pauvre, un peu dame d'œuvre, elle donnait de l'argent aux enfants quand on habitait rue Saint-Pierre à Saint-Germain-en-Laye.
Ce qui est terrible quand même par rapport à votre mère Béatrice Beck, c'est qu'elle se suicide alors que vous venez de rencontrer l'homme de votre vie. Ça,
oui, seulement vous allez être horrifiés, mais c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait jamais fait.
Les relations mère-fille sont devenues un thème à la mode, mais qui prend le plus souvent la forme d'une simple enquête psychologique ou d'un inventaire descriptif. Tout se passe, dans la plupart des cas, comme si on en parlait pour surtout n'en rien dire, pour conjurer le danger d'en trop apprendre sur la question. L'enjeu est en effet d'une extrême importance. Il ne s'agit de rien de moins que de notre aptitude à traverser la haine et la fascination, l'un ou l'autre ou les deux, pour accéder à un rapport libre et singulier comme femme, loin des images idéales et virtuelles que nous tendent en permanence les discours où viennent miroiter les pouvoirs et les soumissions à l'ordre social. C'est la raison pour laquelle les relations qui unissent une mère à sa fille et une fille à sa mère sont ressenties comme fascinantes et inquiétantes. C'est là, en effet, que vient se jouer pour une femme ses liens avec elle-même, avec autrui, avec la reproduction de l'espèce. Penser ces questions suppose donc un travail difficile, passionnant et permanent sur soi-même. Cette série de chemins de la connaissance va tenter d'interroger quelques situations extrêmes de relations mère-fille à travers des mythes, des cas concrets célèbres, des textes littéraires qui pourront éclairer nos passions ordinaires, nos manières d'être en apparence les plus normales, bref, notre lot quotidien. La psychanalyse et les grands récits fondateurs semblent dominés par les rapports père-fils et l'efficience paternelle. À y voir de plus près, le rapport mère-fille s'y révèle encore plus déterminant. C'est ce dont nous allons parler ce matin. En 2000 est paru un livre très important intitulé « Entre mère et fille, un ravage ». Alors, aux éditions Jean-Jacques Pauvert, c'est depuis réédité en livre de poche, qui commence ainsi. Qui n'a eu à connaître de près ou de loin les remous, les dévastations d'une relation entre une mère et sa fille, entre une fille et sa mère? Et le mot que vous avez trouvé, qui est donc le titre de ce livre, Marie-Madeleine Lessana, c'est « Entre mère et fille, un ravage ». Alors, vous expliquez dans votre préface que le mot ravage vient de Lacan. D'abord, bon, j'ai trouvé ce mot ravage sous la plume de Lacan à propos de la spécificité du rapport d'une femme à sa mère. Mais ce n'est pas du tout un mot qui, disons, avait un statut de concept dans le champ de la psychanalyse pour parler de quoi que ce soit. C'est un mot de la langue française que j'ai trouvé une fois sous la plume de Lacan, mais qui m'a paru tellement juste que j'en ai fait un fromage, si j'ose dire, avec ce ravage. C'est-à-dire, je lui ai donné un statut qui, à mes yeux, convient. Alors pourquoi ? Parce que ce mot prend sa racine étymologique dans le mot ravir, et que ce mot ravir joue de l'équivoque entre le rapt, la dépossession, l'emportement et aussi le transport, dans le sens à la fois être dépossédé et en même temps être charmé, fasciné, séduit. Donc c'est dans la mesure de la racine étymologique de ce mot qui avait ces sens qui vont du pire au meilleur, enfin du pire au meilleur dans ce registre de la captation, on pourrait dire, de l'emprise, de la captation, de l'emportement, que j'ai trouvé absolument juste de le faire jouer avec ce que j'ai mis en opposition, c'est le ravissement. Et le faire jouer pour ce qu'il en est de la spécificité de le rapport d'une femme à sa mère. C'est paru dans un article qui s'appelle L'étourdi, dans 6-7 numéro 4, Paris au Seuil 1973. Et ce texte avait été écrit en 1972. Alors, la phrase en question est la suivante. L'élucubration freudienne du complexe d'Édipe qui fait la femme poisson dans l'eau de ce que la castration soit chez elle de départ, Freud Dixit, contraste douloureusement avec le fait du ravage qu'est chez la femme, pour la plupart, le rapport à sa mère, d'où elle semble bien attendre, comme femme, plus de subsistance que de son père, ce qui ne va pas avec lui étant second dans ce ravage. On sait que Freud a chopé sur la question de la féminité en disant que dans les analyses, on rencontrait une zone obscure et opaque et qui
résistait. Un continent noir.
Voilà. Des analyses de femmes, oui. Et que ce continent noir était dû à une trop grande proximité amoureuse, un rapport d'exclusivité amoureuse entre une mère et sa fille, et que ce lien-là, qui est un lien addictif, on pourrait presque dire, résistait à la mise en jeu de la psychanalyse, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne comme refoulement, retour du refoulé. Alors ma thèse est la suivante, donc le ravage, c'est l'expérience de la haine qui est en jeu dans l'amour exclusif avec la mère, qui a une dimension de persécution même, c'est-à-dire de quelque chose qui est dévastateur. Et à ce titre, le mot ravage convient. Et donc je préconise, et c'est là en effet où j'apporte une voie d'ouverture et de réflexion, de faire face à cette dévastation, au lieu de l'éviter, de le considérer comme mauvais et le résultat d'une mauvaise mère qu'il faudrait corriger, ou au lieu de l'éviter en voulant le zapper, ou ne pas vouloir le voir, hein, je considère au contraire qu'il faut mieux qu'une femme s'y engage, ose affronter cette expérience douloureuse qui n'a pas la même algèbre que l'expérience oedipienne, c'est une autre algèbre, et c'est ça que je décline au cas par cas. Donc, rentrer dans cette problématique, dans ces turbulences que j'appelle ravage, et je peux rentrer ensuite dans le détail. Donc, je préconise d'y entrer, de faire face à ces turbulences dans le détail, dans la singularité du détail, de chaque petite chose, et jusqu'à trouver le point clé qui va permettre d'en sortir et qui est toujours à travers une sorte de pratique active, à travers des actes, des actions, des choses à faire qui concernent le rapport au corps de l'autre femme qui est celle qui incarne une image ravissante pour la femme elle-même, ravissante dans les deux sens du terme que j'ai J'utilise le terme ravir. Il faut bien quand même cadrer ce dont il s'agit. Il s'agit de quoi ? De la question de féminité, qu'on ne devient pas femme par initiation ni par identification. Il y a une zone qui échappe à ça, qui n'est pas donnée, qui n'est pas donnable, même si la fille souhaiterait tant recevoir de sa mère ou d'autres femmes adultes ou du système social, politique, les éléments standards. Et Dieu sait que les magazines féminins n'arrêtent pas de fournir tout ce qu'il faudrait, soi-disant, pour avoir tous les moyens, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une femme, comment on devient une femme, où en sont les critères. Eh bien non, il y a une zone qui échappe. Cette zone est turbulente dans beaucoup des cas, elle est apaisée dans d'autres, mais en quelque sorte, je la parle avec ces mots ravage, ravissement. Et au cœur même de cette problématique qui donc n'est pas balisable symboliquement, il y a une image de femme qui fonctionne comme désirable et qui incarne aux yeux de chaque femme l'idéal de la féminité. On pourrait dire ça comme ça, la féminité réalisée. Et c'est par rapport à cette image qui est à la fois point d'identification, mais identification ratée, donc persécutrice, elle fonctionne comme pour l'autre et pas pour moi, et pourtant c'est elle que je voudrais être, hein, mais je ne le suis pas et je ne le serai pas ou je ne le serai jamais, et c'est dans cette problématique que se joue le jeu ravage-ravissement. Elle est ravissante et elle est ravageante. Bon, et la traversée du ravage passe par un attentat, je emploie ce mot, fait à cette image pour en faire déchoir le caractère persécutif, c'est-à-dire la dimension d'éclat qui fait que le sujet se sent évanoui, agressé par cette image.
Sigmund Freud de la sexualité féminine. Les femmes ayant une forte liaison au père sont, comme on sait, très nombreuses. Point n'est besoin qu'elles soient pour autant névrosées. C'est sur de telles femmes que j'ai fait les observations dont je rends compte ici et qui m'ont amené à une certaine conception de la sexualité féminine. Là, deux faits m'ont frappé avant tout. Le premier était, là où existait une liaison au père particulièrement intense, il y avait eu auparavant, selon le témoignage de l'analyse, une phase de liaison exclusive à la mère, de même intensité et de même caractère passionné. Hormis le changement de l'objet, c'est à peine si la seconde phase avait ajouté un nouveau trait. La relation primaire à la mère avait été édifiée de façon très riche et variée. Le second fait enseignait que l'on avait aussi fortement sous-estimé la durée de cette liaison à la mère. Elle se prolongeait dans plusieurs cas jusque très en avant dans la quatrième année, dans un cas jusque dans la cinquième, et occupait donc la partie de loin la plus longue de la floraison sexuelle précoce. En fait, il fallait admettre la possibilité qu'un certain nombre d'êtres féminins restent pris dans la liaison originelle à la mère et ne parviennent jamais à se tourner véritablement vers l'homme.
C'est comme si il y avait deux textes,
Martine Lerude, psychanalyste,
qui se recouvraient l'un l'autre. Le texte de la névrose infantile de la fille, finalement celui de la névrose oedipienne que l'on connaît, avec la place qu'elle a dans cette configuration par rapport au père et à la mère, mais un autre texte qui doit être décrypté et qui est celui de ce lien premier à la mère. Et alors là, il prend une métaphore formidable, Freud, puisqu'il utilise la métaphore de l'écriture mycénienne qui vient d'être découverte. Il dit voilà, il y a les restes là d'une écriture qui est recouverte par une écriture autre, comme était l'écriture mycénienne recouverte par l'écriture grecque, et il faut pouvoir aller la décrypter. Et effectivement, Freud va là mettre en place tout ce parcours d'accès, tout ce long parcours qu'une fille doit accomplir pour devenir une femme, pour avoir accès à la féminité. Mais c'est un parcours qui non seulement est compliqué, et en plus, il nous dit à un moment, elle peut arriver complètement épuisée d'avoir accompli ce parcours, puisqu'il y a le changement d'objet, il va falloir qu'elle change d'objet d'amour, qu'elle abandonne cet objet si chèrement, magnifiquement aimé qu'est la mère, et qu'elle passe au père. Et ça, on voit des femmes, me dit-il, qui sont complètement rigides à l'âge de 30 ans parce qu'elles sont épuisées par ce processus. Je ne suis pas du tout d'accord avec Freud sur ce moment d'épuisement. Mais ce qui est quand même passionnant, c'est que dans la langue allemande, Freud va parler de
die Abwendung von den Mutter, qui va conduire à la Wendung zum Vater. Alors, Abwendung a été traduit en français, veut dire un changement. Mais un changement, ça évoque quelque chose, je dirais, qui a lieu dans le moment même. On change d'objet, hein? On en prend un autre. Mais c'est pas ça du tout. Abwendung, c'est un mouvement. C'est un détournement, et un détournement qui va prendre du temps, qui se situe dans une diachronie. Et c'est ce mouvement-là qui est tout à fait passionnant et qui va occuper, je dirais, toute la vie d'une femme, non pas parce qu'elle n'arrive pas à se détourner de la mère, mais parce que la féminité, elle va se trouver scandée au long de la vie par les différentes modalités identificatoires qui doivent se mettre en place. Il y a vraiment des scansions, je dirais, dans la vie d'une femme qui font que ce rapport à la mère, parce que le voile va en être en quelque sorte levé et il va être mis au grand jour. Hein? Et on le voit très bien, je dirais, dans notre clinique, quand il s'agit, à l'adolescence, bien entendu, c'est un des moments les plus criants, hein? Au moment de la naissance des enfants, des maternités, d'une fausse couche aussi, hein? Ou de la stérilité, puisque les femmes, elles vont venir là parler du rapport à leur mère dans ces moments où le corps, le réel du corps est mis en jeu, et où c'est la physiologie, en quelque sorte, qui vient là... rappeler à l'ordre et mettre, je dirais, la femme dans ce rapport plus direct à ce qu'a été l'autre maternel, le corps de la mère. Ou bien la femme à l'âge de la ménopause, et là c'est une période, on pourrait dire, quand même assez vaste, c'est vrai qu'il y a là un temps où le sujet se retrouve dans une incertitude subjective qui peut d'ailleurs se manifester par des écroulements réels, c'est-à-dire on voit par exemple des femmes entre 45 et 55 ans qui viennent avec ce diagnostic à tout faire de dépression qui s'écroule. Mais cet écroulement, il tient à l'écroulement de l'identification qui avait été mise en place pendant des décennies et qu'il faut effectivement reprendre, remodeler, il faut retrouver de nouvelles identifications. C'est pour ça qu'on parlait autrefois. La dépression de la ménopause, par exemple. Mais la dépression de la ménopause, c'est effectivement une crise de métamorphose libidinale qui est tout à fait, je dirais, productive et intéressante. Si effectivement on se met à donner aux femmes qui vont traverser ces périodes-là difficiles, donc si on se met à leur donner des antidépresseurs, on voit bien que du même coup, elles ratent aussi un moment dynamique de leur structuration subjective.
Les membres de l'association Un vélo dans la tête ont encore une fois tenté d'interdire l'accès de l'autoroute A6 aux nombreux automobiles désireux de profiter du pont de l'Ascension. Les enfoirés.
Pardon ?
Les cons, si tu préfères.
Qui ça ? Les automobilistes ?
Bah non, eux là, les accros du vélo, c'est des cons.
Ah bon ?
T'es pas d'accord ?
Non, pas tout à fait.
Tu trouves pas qu'ils gonflent à la fin, les écolos ?
Non, enfin, Mimi, tu te rends compte de ce que tu dis ? Et les nuisances provoquées par l'usage intensif de tous ces engins à moteur, qu'est-ce que tu en fais ? Et les pluies acides ? La couche d'ozone ?
Et les hérissons ? Et les ratons laveurs ?
Oh, ne me dis pas que ça t'est égal.
Bah si, je m'en tape.
Oh, je sais plus quoi dire.
Bah, dis rien.
Quand je pense à toutes les luttes que nous avons menées, moi, Michel, Janine et tant d'autres, dans le seul espoir de laisser, sinon un monde meilleur, du moins la planète telle que nous-mêmes l'avons reçue...
Bah, on se croirait aux chiottes. Priez de laisser cet endroit...
Oui. Qui voit, t'es pas obligé. Ma pauvre Mimi.
Ma pauvre maman. T'es ringarde, maman. Complètement ringarde, tu sais.
Ah bon ?
Bah oui.
L'adolescente.
Oui.
La jeune fille adolescente.
Mm-hmm.
Pose des questions extrêmement intéressantes et récurrentes dans le rapport à la mère. Alors, c'est assez pointé par non seulement la littérature, mais la bande dessinée, même, évidemment, la publicité. Je veux dire, c'est des questions que plus personne n'ignore, le rapport d'une fille adolescente à sa mère. Et il est d'autant plus prégnant qu'au fond, l'adolescente fille est centrée sur un désir, une phrase, une idée très répétitive et très banale qui est de dire à sa mère, je ne veux surtout pas te ressembler.
Tout à fait. Mais ce qu'elle voit chez leur mère, c'est souvent le trait identificatoire qu'elles se sont appropriées de manière inconsciente, hein,
c'est juste un trait, mais celui-là, elle le voit et elle le... Et justement, c'est là que se situe l'insupportable. Je crois que s'il y a une spécificité dans le rapport mère-fille, où est-ce qu'on va aller la retrouver, c'est effectivement le fait d'avoir pour une femme un bébé-fille, c'est immédiatement la question du même qui est posée. Alors, avoir le même corps que la mère, être du côté du même, bien entendu, ça a des conséquences, même avant l'adolescence. Parce que, là encore, je vais me référer à Lacan, qui nous a fourni quand même les outils avec lesquels on travaille, avec lesquels on pense. Lacan parle de ce temps tout à fait nécessaire, je dirais, pour l'enfant, qui est cette dialectique mère-enfant-phallus, où l'enfant représente le phallus pour la mère. Je dis bien « représente ». Si on dit « représente », ça veut dire qu'il ne l'est pas. En tant que sujet, il n'est pas du tout le phallus. Il n'en est que le représentant. Eh bien, pour les petites filles, ça ne se passe pas du tout de la même façon que pour les garçons. Parce qu'elles, très vite, elles perçoivent la dimension du semblant. Alors que vous savez très bien que les garçons, eux, ils peuvent se prendre pour le phallus de leur mère, qui elle aussi croit que c'est bien leur phallus, hein, et y rester très, très, très longtemps, et on en connaît tous.
Absolument.
Et c'est peut-être là
qui n'arrive même pas à s'en sortir.
Qui n'arrive pas à quitter cette place-là.
Oui.
Tandis qu'on voit bien que l'intelligence des petites filles, leur vivacité, leur rapport au langage, tout ce qu'on décrit, hein, de cette précocité chez les petites filles, je crois que ça tient au fait que, parce qu'elles sont des filles, du fait de cette position d'être du même sexe que la mère, hein, c'est pas leur sexe anatomique, mais le fait qu'elles soient du même sexe que la mère est reconnu comme du côté du même par la mère, eh bien, ça les met effectivement dans une position où elles dénoncent plus facilement le semblant. Elles sont pas dupes. Alors, finalement, très vite, la petite fille, elle veut pas être aussi docile que ça, même si sa mère est son premier objet d'amour. Néanmoins, elle est
peut-être même parce qu'il est son premier objet d'amour,
hein, comme le garçon. Je veux dire, même s'il est bien comme le garçon son premier objet d'amour, elle ne va pas être, je dirais, tout à fait dupe de cette place de représentant du phallus où elle va être mise. Mais néanmoins, il faut qu'elle y soit mise, et il faut que là, il y ait quelque chose qui soit validé par le regard de la mère. Comment la fille peut-elle s'en arracher? Alors c'est vrai qu'elle va s'appuyer sur le père pour s'en arracher, ça c'est vrai, mais elle va aussi s'appuyer sur tous ses sentiments de révolte, hein, ses sentiments d'hostilité. Freud parle de l'hostilité de la fille à sa mère quand on tient ce processus de détachement, de la haine. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est toujours difficile, c'est-à-dire d'avoir à supporter les moments de haine de sa fille, ou pour la fille elle-même, d'avoir à supporter les moments où elle est sa mère. Et pourtant, ces moments-là sont tout à fait nécessaires pour que ce processus puisse opérer, hein, ce processus de détournement de la mère. Et alors, effectivement, la fille, elle pourra faire des tas de reproches à sa mère. Alors, les reproches peuvent nous faire éclater de rire. Qu'est-ce qu'elle me reprochait, moi, ma fille, samedi, de ne pas les avoir emmenées voir un psychanalyste? Alors, celle-là, c'était la meilleure. On m'a dit, oui, tu t'es pas occupé de nous. D'ailleurs, tu ne nous as jamais emmené voir quelqu'un. Et pourtant, sûrement que ça nous aurait aidé, t'as rien fait pour nous aider.
Martine Ruud, alors, il y a juste ouvert devant vous un livre de Simone de Beauvoir, le fameux livre sur la mort de sa mère, qui s'appelle « Une mort très douce ».
Oui, parce que je trouve que Simone de Beauvoir, dans sa... parlait de la question des identifications tout à l'heure, dit dans un langage d'une rigueur et d'une pureté extraordinaire comment il y a eu pour elle la mère de sa petite enfance, la mère de son enfance, celle qu'elle adorait quand elle avait 10 ans et vis-à-vis de laquelle elle était d'une docilité extrême, et puis la mère de son adolescence, celle avec qui il y a une rupture radicale. Et elle aura beau, au long de sa vie, et comme elle l'explique, aller vers cette femme avec des moments de bienveillance, d'attention, dès que sa mère ouvre la bouche et qu'elle commence sa phrase en disant, je cite mal, mais je cite quand même, quand sa mère lui dit « Toi qui es plus intelligente que moi », à ce moment-là, elle ne peut plus l'écouter. Et elle dit, c'est quand même étrange, elle dit des bêtises, elle est très raide, elle est très encombrée de ses préjugés, sa mère. Mais ça, je l'accepterais bien de n'importe qui, je peux écouter ça, ça ne me pose pas de problème. Mais là, elle, tant qu'elle parle, elle est dans un état de fermeture. Et elle dit, Simone de Beauvoir, elle dit, j'ai la raideur de ma mère. C'est-à-dire que c'est sur ce trait d'identification, la raideur de sa mère qu'elle reconnaît chez elle, qu'elle est là en train, qu'elle a toujours, je dirais, à choper ce qui lui était intolérable, hein, cette raideur bourgeoise. Et alors, il y a des moments extraordinaires, d'ailleurs, sur l'identification, y compris, donc, elle a quel âge ? Elle a 56 ans ou 57 ans quand elle écrit ce livre. Et il y a un moment donné où elle parle de la bouche de sa mère et Sartre va lui faire remarquer qu'elle-même a la bouche qu'elle est en train de décrire. Alors, à propos de son adolescence et de son rapport à sa mère, dans Une mort très douce, Simone de Beauvoir reprend des éléments de ce lien à sa mère, et je vais les lire parce que c'est tellement bien écrit que je crois que ça en dit plus que le verbiage d'un psychanalyste. J'avais passé la nuit à son côté, oubliant mon dégoût pour ce lit nuptial où j'étais née, où mon père était mort. Je l'avais regardé dormir. À 55 ans, ses yeux fermés, le visage apaisé, elle était encore belle. J'admirais que la violence de ses émotions l'eût emporté sur sa volonté. D'ordinaire, je pensais à elle avec indifférence. Pourtant, dans mon sommeil, alors que mon père apparaissait très rarement et d'une manière anodine, elle jouait souvent le rôle essentiel. Elle se confondait avec Sartre et nous étions heureux ensemble. Et puis le rêve tournait au cauchemar. Pourquoi habitais-je de nouveau avec elle? Comment étais-je retombée sous sa coupe? Notre relation ancienne survivait donc en moi sous sa double figure. Une dépendance chérie et détestée. Elle a ressuscité dans toute sa force quand l'accident de maman, sa maladie, sa faim eurent cassé la routine qui réglait à présent nos rapports. Derrière ceux qui quittent ce monde, le temps s'anéantit. Et plus j'avance en âge, mon passé se contracte. La petite maman chérie de mes 10 ans ne se distingue plus de la femme hostile qui opprima mon adolescence. Je les ai pleurées toutes les deux. On ne peut pas dire mieux les choses. Je trouve qu'il y a là une sobriété des mots et en même temps, effectivement, c'est une justesse. Hein, c'est-à-dire, elle-même, elle a 56 ans à ce moment-là. Elle a fait son devoir et effectivement, elle peut pleurer les deux. Celle qu'elle aime et celle qu'elle déteste. Et celle qu'elle déteste.
Les chemins de la connaissance. Aujourd'hui, les relations mère-fille revisitées par la psychanalyse. Avec Marie-Madeleine Lessana et Martine Lerude, psychanalyste. Texte lu par Anne Grace, Archivina Véronique Jolivet. Groupe de réalisation, Xavier Carrère, Jean-Marie Charon, Yann Lambré, Michel Mestre, Franck Lilin, Christine Goémé. Sur franceculture.com, la liste des émissions que vous pouvez également...